Donc on va commencer notre 12e leçon, notre série sur la crainte de Dieu. Ce qu'on va regarder ce soir, c'est le premier de trois devoirs que nous impose la crainte de Dieu. Alors on a vu différentes facettes de la grâce de Dieu, les bénédictions, les bénéfices et tout cela, et différentes facettes au cours des dernières semaines. Maintenant, toutes ces choses-là, ça nous impose des devoirs. Et ce qu'on va faire ce soir, on va regarder le premier des trois devoirs que nous impose la crainte de Dieu. Et ce premier devoir-là, face à la crainte de Dieu, c'est qu'on se doit de s'examiner nous-mêmes. Alors, on va regarder la semaine prochaine le deuxième, qui est l'exhortation, et en un troisième, on va regarder tout cela. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est vraiment qu'on se doit de s'examiner nous-mêmes. Alors, après avoir tout regardé l'éventail des choses qu'on a mentionnées sur la crainte de Dieu, ça nous impose un devoir, celui de s'examiner nous-mêmes. Alors, lorsque le chrétien prend conscience des bénéfices et bénédictions qui sont rattachés à la crainte de Dieu, est-ce que ce n'est pas normal qu'on veuille l'augmenter dans nos propres vies? Pour bien considérer les éléments de la crainte de Dieu qui sont déficients dans nos vies, on se doit de nous examiner nous-mêmes, et ça à deux niveaux. Le premier, on se doit de s'examiner en général, et ensuite, on va s'examiner dans toutes les facettes de nos vies, on va regarder les différentes facettes, et on va regarder comment on peut demander au Seigneur la grâce de croire dans la crainte de Dieu dans les différentes facettes. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est qu'on se doit de s'examiner en général. Alors, les personnes nées de nouveau ou régénérées doivent manifester de la haine pour le péché et des changements puissants dans leur cœur et dans leur marche quotidienne devraient se manifester visiblement aux yeux de tous. Dans le psaume 55, au verset 19, on peut lire « Le Dieu fort l'entendra et les accablera, car il préside de toute ancienneté. C'est là, parce qu'il n'y a point de changement en eux et qu'ils ne craignent point Dieu. » Alors ici, le verset fait un lien direct au fait qu'il n'y a pas de changement dans la vie parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. S'il y a de la crainte de Dieu, et plus il y en a, plus le changement va être visible, observable et manifeste. Psaume 36, versets 1 à 2. Psaume de David, serviteur de l'Éternel, donné au maître chantre. La transgression du méchant me dit au-dedans du cœur qu'il n'y a point de crainte de Dieu devant ses yeux, car il se flatte en soi-même quand son iniquité se présente pour être haïe. Alors, l'iniquité se présente dans nos vies, elle se devrait d'être haïe, combattue et implorer la grâce du Seigneur. Mais ça dit que des fois, l'être humain se flatte de son péché. C'est grave quand on pense à ça. Hein? Alors, et la raison qui est dit dans le verset 1, car il n'y a point de crainte de Dieu dans sa vie. Romains 3, 18, ça dit, la crainte de Dieu n'est point devant leurs yeux. Alors, c'est sûr que si on reprendrait Romains 1, 2, 3 et l'ensemble de Romains, on verrait qu'il y a un fil conducteur. Ceux qui ne sont pas sauvés et qui vivent continuellement dans le péché, dans l'entêtement, dans le péché, la caractéristique première de leur vie, c'est qu'ils sont, ils n'ont point de crainte de Dieu dans leur vie. Donc ça, c'est la première chose qu'on veut faire. On veut nous examiner en général. Maintenant, si, l'examen en général, je pense que la meilleure façon de le faire, c'est qu'on peut le faire nous-mêmes, tu sais, on peut faire. Mais je pense que la meilleure façon, c'est vraiment d'aller devant Dieu et de lui demander de nous montrer là où il y a des déficiences dans nos vies concernant la crainte de Dieu, dans les différentes facettes. Et c'est ça qu'on veut regarder, là. On se doit de s'examiner dans toutes les facettes de nos vies. Alors, la première facette, on va regarder quelques affirmations qui concernent ceux qui ne craignent pas Dieu. La première affirmation, c'est « L'homme qui ne craint pas Dieu est orgueilleux. » Ça dit dans Romains 11, versets 19 à 21, « Mais tu diras, les branches ont été retranchées afin que j'y fusse hanté. C'est bien dit, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et tu es debout par la foi. Ne t'élève donc point par orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a point épargné les branches naturelles, prends garde qu'il ne t'épargne point aussi. Alors, c'est dans le contexte que Dieu compare le peuple d'Israël à un arbre et qu'il dit qu'il a coupé et qu'il peut remettre Israël sur l'arbre, mais il l'a coupé. Et la raison, il dit, et pour nous qui ont été hantés, ça veut dire collectés sur l'arbre, il dit, ne sois pas orgueilleux à cause de ça, mais crains. Jacques, chapitre 4, verset 6, « Il vous donne au contraire une plus grande grâce, et pourquoi l'Écriture dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Malachie, chapitre 4, verset 21, « Car voici, le jour vient, ardent comme un four. Tous les orgueilleux et tous les méchants seront comme du chaume. Et ce jour qui vient, a dit l'Éternel des armées, les embrasera et ne leur laissera ni racine ni rameau. » Donc, la première affirmation, c'est que l'homme qui ne craint pas Dieu est orgueilleux. Deuxième, c'est que l'homme qui ne craint pas Dieu, souvent, est cupide. Exode 18, verset 21. « Et choisis-toi d'entre tout le peuple des hommes vertueux, craignant Dieu, des hommes véritables, haïssant le gain des honnêtes, et les établis chefs de milliers, et chefs de centaines, et chefs de cinquantaines, et chefs de dizaines. » Voyez-vous, la critère pour choisir des leaders, Dieu lui-même dit que des hommes vertueux craignant Dieu. Alors Dieu, normalement, va choisir des leaders parmi ceux qui le craignent. Ézéchiel 33, verset 31. « Et ils viennent vers toi comme en foule, et mon peuple s'assied devant toi, et ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent point en effet. Ils les répètent comme si c'était là une chanson profane, mais leur cœur marche toujours après leur gain déshonnête. » Alors, ceux qui n'ont pas de crainte de Dieu, souvent, sont cupides. Cupides, ça veut dire aimer l'argent. Ils courent après l'argent, autrement dit. Éphésiens, chapitre 5, versets 3 à 5, « Que ni la fornication... ni aucune souillure, ni l'avarice ne soit même nommée parmi vous, ainsi qu'il est convenable à des saints. Ni aucune chose déshonnête, ni parole folle, ni plaisanterie, car ce sont là des choses qui ne sont pas bienséantes, mais plutôt des actions de grâce. Car vous savez ceci, que nul fornicateur, ni impur, ni avare, qui est un idolâtre, n'a point d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Troisième caractéristique, l'homme qui ne craint pas Dieu est souvent glouton. On n'en parle pas souvent de nos jours. C'est un péché qui est répandu pas mal plus qu'on le croit. Voyez-vous, ça dit dans Jude 1, verset 12, ceux-ci sont des taches dans vos repas de charité, en prenant leur repas avec vous, et se repaissant eux-mêmes, sans crainte, ce sont des nuées sans eau, emportées des vents, ça et là, des arbres dont le fruit se pourrit et sans fruit, deux fois mort et déraciné. Proverbes, chapitre 23, verset 20, ça dit « Ne fréquente point les ivrognes ni les gourmands. » Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 13, dans la version Lausanne, ça dit « En recevant le salaire de l'injustice, trouvant leur plaisir à être tout le jour dans les délices, taches et souillures, faisant leur délice de leur tromperie, dissolus dans leur festin avec vous. » Souvent, c'est que la dissolution, quand on regarde l'histoire de Rome, c'est exactement ce qui se passait à la fin. Alors, Romains, chapitre 13, verset 13, « Conduisez-vous honnêtement et comme en plein jour, non point en gourmandise, ni en ivrognerie, non point en impudicité, ni en dissolution, non point en querelle, ni en envie. » Oui, il parle à des chrétiens ici. Puis il dit, non point en gourmandise. Ça veut dire que c'est un péché. Alors, si on a la crainte de Dieu, on va faire attention à cela aussi. 1 Pierre, chapitre 4, verset 4, ça parle encore à des chrétiens. « Car il doit nous suffire d'avoir accompli la volonté des gentils durant le temps de notre vie passée, quand nous nous abandonnions aux impudicités, aux convoitises, à l'ivrognerie, aux excès dans le manger et dans le boire, et aux idolâtries abominables. Ce que ces gentils trouvent fort étrange, et ils vous blâment de ce que vous ne courez pas avec eux dans un même débordement de dissolution. » Quatrième caractéristique, l'homme qui ne craint pas Dieu est menteur. Alors, Ésaïe 57, verset 11, « Et de qui as-tu eu peur que tu as craint, que tu ne m'aies menti, et que tu ne te sois souvenu de moi, et que tu ne t'en sois point soucié? Est-ce que je me suis tu, même de si longtemps que tu ne m'aies point craint? » Vois-tu, il parle de mentir, puis il dit que la cause pour laquelle il ment, c'est parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Apocalypse, verset 21, verset 8 et 27. « Mais quant aux timides, aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux empoisonneurs, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la mort seconde. » Quand on lit dans le texte les empoisonneurs, ce n'est pas des personnes qui empoisonnent les autres. C'est le grec pharmakia qui veut dire qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes par la drogue. C'est ça que ça veut dire. Autrement dit, le verset pourrait changer le mot empoisonneur pour drogué. Et verset 27, il n'y entrera, il parle du ciel, il n'y entrera aucune chose souillée, ni personne qui s'abandonne à l'abomination et au mensonge, mais seulement ceux qui sont écrits au livre de vie de l'agneau. Cinquième chose, l'homme qui ne craint pas Dieu est rebelle. Exode 9, versets 39 et 40. Ici, on parle de Pharaon dans le contexte. Pharaon qui, malgré les avertissements que Dieu lui envoyait par l'intermédiaire de Moïse, on lit dans le verset 29, « Alors Moïse dit, « Aussitôt que je serai sorti de la ville, j'étendrai mes mains vers l'Éternel et les tonnerres cesseront. Et il n'y aurait plus de grêle afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais quant à toi et à tes serviteurs, je sais que vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Voyez-vous, malgré tous les avertissements, malgré toutes les démonstrations de puissance que Dieu faisait à Pharaon, son cœur n'était pas touché. Jérémie, chapitre 5, verset 23-25, « Mais ce peuple-ci a un cœur rétif et rebelle. Ils se sont reculés en arrière et se sont en allés. Ils n'ont point dit en leur cœur, « Craignons maintenant l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne de la pluie de la première et de la dernière saison et qui nous garde les semaines ordonnées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné ces choses et vos péchés ont empêché qu'il ne vous arrivât du bien. » Alors, on voit qu'il y a des conséquences au manque de crainte de l'Éternel. Parce qu'il dit, vos péchés, ça détourne et ça empêche qu'il arrive du bien. Romains 10, verset 21. « Mais quant à Israël, il dit, j'ai tout le jour étendu mes mains vers un peuple rebelle et contredisant. » Sixième, c'est que l'homme qui ne craint pas Dieu est un ennemi du peuple de Dieu. Tous ceux qui combattent le peuple de Dieu, et ceci peu importe le moyen utilisé, que ce soit la puissance, que ce soit par la langue, que ce soit par l'utilisation des richesses et des biens, ou que ce soit par le briser leur réputation, ou que ce soit par causer des scandales qui souvent sont faux, des fausses accusations, les calomnies et les reproches. L'homme qui ne craint pas Dieu est un ennemi du peuple de Dieu. Alors dans Deutéronome 25, versets 17 à 19, ça dit « Qu'ils te souviennent de ce que Amalek t'a fait en chemin quand vous sortiez d'Égypte, comment il est venu te rencontrer en chemin et a chargé en queue tous les faibles qui te suivaient quand tu étais là et harassé, et n'a point eu de crainte de Dieu. Il est en train de dire que le Amalek, il n'a pas eu de crainte de Dieu. Verset 19, il dit, « Quand donc l'Éternel ton Dieu t'aura donné du repos de tous les ennemis tout alentour, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage pour le posséder, alors tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les yeux, ne l'oublie point. » Alors, ils ont fait du tort au peuple de Dieu. Dieu dit que non seulement Amalek, mais Amalek et sa descendance, il dit, extermine-les, puis ne l'oublie pas. Alors, on voit que ceux qui font du mal au peuple de Dieu, ils se mettent dans des situations où ils attirent sur eux des jugements. Le septième, c'est que l'homme qui ne craint pas Dieu est rétrograde. Rétrograde, ça veut dire quelqu'un qui retourne en arrière. Les croyants qui voient la main de Dieu sur les rétrogrades et qui rétrogradent eux-mêmes. Jérémie, chapitre 3, versets 7 à 10. « Et quand elle a eu fait toutes ces choses, j'ai dit, « Retourne-toi vers moi, mais elle n'est point retournée, ce que sa sœur Judas, la perfide, a vu. Et j'ai vu que pour toutes les occasions pour lesquelles Israël, la revêche, avait commis adultère, je l'ai renvoyée, je lui ai donné ses lettres de divorce. Toutefois, Judas, sa sœur, l'infidèle, n'a point eu de crainte, mais elle s'en est allée et elle s'est aussi prostituée. Et il est arrivé que par la facilité qu'elle a à s'abandonner, elle a souillé le pays et a commis adultère avec la pierre et le bois. Et néanmoins, pour tout ceci, Judas, sa sœur, la perfide, n'est point retourné à moi de tout son cœur, mais avec mensonge dit l'Éternel. » Voyez-vous, l'Éternel avait envoyé des jugements. Il appelait les deux sœurs, Judas, et il envoyait un jugement, mais l'autre, même s'il a vu que Dieu avait envoyé un jugement, ça ne l'a pas provoqué chez lui un changement. Alors, quand l'homme qui voit un jugement dans la vie, soit d'un peuple ou soit d'un individu, qu'il voit, qu'il l'observe, et que ça ne provoque pas lui-même un changement dans sa propre vie, c'est qu'il rétrograde, il retourne en arrière. Jérémie, chapitre 2, versets 18 et 20, à 20. « Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour y boire de l'eau de Sihor? Et qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour y boire de l'eau du fleuve? Ta malice te châtira, et tes débauches te réprimeront, afin que tu saches et que tu vois que c'est une chose mauvaise et amère que tu aies abandonné l'Éternel ton Dieu et que tu ne sois point rempli de ma frayeur, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Parce que depuis longtemps, j'ai brisé ton joug et rompu tes liens. Tu as dit, je ne serai plus dans la servitude. C'est pourquoi tu as erré en te prostituant sur toute colline et sur tout arbre vert. » Voyez-vous, même si parfois l'Éternel permet des choses amères dans la vie des gens, ça ne provoque pas nécessairement toujours des changements. La crainte de Dieu, c'est la seule chose qui amène un véritable changement. La huitième chose, c'est l'homme qui ne craint pas Dieu ne se lamente pas sur l'état spirituel du pays, se vautrant dans le péché. Quand on vit dans un pays, l'observation de ce qu'on voit autour de nous, la quantité phénoménale de péché qui va de plus en plus croissant, ça devrait provoquer chez nous de la tristesse. Ça devrait nous amener à nous lamenter auprès du trône de la grâce de l'état de notre pays. N'est-ce pas ce qui se passe actuellement? Quand on est en train de vouloir voter nationalement une loi pour favoriser la consommation de cannabis encore plus. On se devrait d'être attristé de ça. On se devrait de se lamenter auprès du trône de la grâce de Dieu là-dessus. On lit par exemple Jérémie 44, versets 9 et 10. « Avez-vous oublié les crimes de vos pères et les crimes des rois de Juda et les crimes de leurs femmes ?» et de vos propres crimes et les crimes de vos femmes qu'elles ont commis dans le pays de Juda et dans les rues de Jérusalem. Jusqu'à ce jour, ils n'ont point été affligés, et ils n'ont point eu de crainte, et ils n'ont point marché en ma loi, ni en mes ordonnances que je vous ai proposées, et vos pères aussi. » Alors, quand on craint Dieu, on se devrait de regarder autour de nous, et ça devrait nous attrister beaucoup. Prier beaucoup plus pour toutes ces choses-là que le Seigneur mette sa main à l'intérieur de tout ça. Neuvième, c'est que l'homme qui ne craint pas Dieu donne plus d'attention à ses propres rêves qu'à la parole de Dieu. Jude 1, verset 8. « De la même manière, cependant, ces hommes aussi, plongés dans leurs songes, d'une part, souillent leur chair, et de l'autre, rejettent toute domination et parlent injurieusement des dignités. » Alors, l'homme qui ne craint pas Dieu donne plus d'importance à ses propres rêves et à leur réalisation qu'à aller chercher la lumière et la direction dans la parole de Dieu. Et dixièmement, l'homme qui ne craint pas Dieu est souvent adultère et oppresseur. Jacques, chapitre 5, verset 3. « Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et duquel ils ont été frustrés par vous. Cris, et les cris de ceux qui ont moissonné sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. » Malachie 3, 5. « Je m'approcherai de vous pour faire jugement, et je serai témoin subit contre les enchanteurs et contre les adultères et contre ceux qui jurent faussement et contre ceux qui fraudent le loyer du mercenaire et qui oppressent la veuve et l'orphelin et qui font tort à l'étranger et qui ne me craignent point, a dit l'Éternel des armées. » Pourquoi toutes les actions qu'on vient de nommer se produisent? C'est parce qu'il n'y a pas de crainte de Dieu. Et la onzième, l'homme qui ne craint pas Dieu, qui ne craint pas Dieu est railleur. Alors un railleur, c'est quelqu'un qui est un moqueur. Il raille les autres. Ah, oh, votre religion, ça ne tient pas de bout, il se moque, c'est un moqueur. Alors ceux qui ne craignent pas Dieu, le Seigneur, ils vont railler les enfants de Dieu, surtout lorsqu'ils voient que les enfants de Dieu subissent des afflictions, ou ont des tentations, ou ont des persécutions, ils vont se réjouir de ça. Alors, ils se réjouiront des malheurs des croyants. Luc, chapitre 23, verset 39 et 40. Et l'un des malfaiteurs qui était pendu l'outrageait, disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre, prenant la parole, le censurait fortement, disant, au moins ne crains point Dieu, puisque tu es dans la même condamnation. Voyez-vous, deux hommes qui étaient dans la même situation, un craint Dieu, et l'autre, il était sur la croix en train d'agoniser, et il avait encore la capacité, dans son cœur méchant, de railler le Seigneur. C'est pas croyable. Psaume 35, versets 24 à 26, « Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent point de moi, qu'ils ne disent point en leur cœur, « Ah ah, notre âme !» et qu'ils ne disent point, « Nous l'avons englouti. » Que ceux qui se réjouissent de mon mal soient honteux et rougissent tous ensemble, et que ceux qui s'élèvent contre moi soient couverts de honte et de confusion. On a 2 Samuel, chapitre 16, versets 5 à 8. Et le roi David vint jusqu'à Bahurim. Et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Simi, fils de Guira, qui était sorti avec impétuosité, faisant des imprécations. Et jetait des pierres contre David et contre tous les serviteurs du roi David et tout le peuple et tous les hommes forts qui étaient à la droite et à la gauche du roi. Or, Simi parlait ainsi en le maudisant. « Sors, sors, homme de sang et méchant homme !» parlait de David. Et verset 8, « L'Éternel a fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, en la place duquel tu as régné, et l'Éternel a mis le royaume entre les mains de ton fils Absalom. Et voilà, tu souffres le mal que tu as fait parce que tu es un homme de sang. » Et quand on se souvient de l'histoire, ceux qui l'ont lu, on se souvient très bien que cet homme-là, un peu plus tard, David a permis qu'il soit tué pour le péché très grave qu'il avait fait là, parce qu'il était en... Absalom avait pris le pouvoir, et lui, il s'était réfugié, mais là, lui, quand il a vu que David était perdant, et que son fils avait pris la royauté. Il se moquait de lui, il tirait des pierres. Mais on voit que Dieu, dans sa justice, a permis que plus tard il soit jugé et qu'il reçoive le juste châtiment pour son comportement. Et la douzième et la dernière, l'homme qui ne craint pas Dieu se manifeste par des effets, ne manifeste pas les effets visibles de la crainte de Dieu. Quand quelqu'un n'a pas de crainte de Dieu, il n'y a pas d'effet visible dans sa crainte, dans sa vie. Malachie, chapitre 1, versets 6 à 8. Le Fils honore le Père et le serviteur son Seigneur. Si donc je suis Père, où est l'honneur qui m'appartient? Et si je suis Seigneur, où est la crainte qu'on a de moi? A dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom. Et vous avez dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel du pain souillé, et vous dites, en quoi t'avons-nous déshonoré? C'est en ce que vous dites, la table de l'Éternel est contemplative. Et quand vous amenez une bête aveugle pour la sacrifier, n'y a-t-il point de mal en cela? Et quand vous l'amenez boiteuse ou malade, n'y a-t-il point de mal en cela? Présente-la à ton gouverneur, t'en sera-t-il gré ou te recevra-t-il favorablement, a dit l'Éternel des armées. Oui, vous, ils prenaient des animaux, leurs pires animaux, pour les offrir en sacrifice, des animaux boiteux, malades. Et là, l'Éternel les reprend et leur dit, on va faire une chose avec toi. Va t'en voir ton gouverneur, là, puis présente-lui ça comme un cadeau. Voir comment il va prendre ça. Et à cette époque-là, faire ça à un gouverneur, c'était risquer ta vie. Et là, il dit, non seulement, il dit, vous me le faites à moi, puis vous ne vous rendez même pas compte que vous faites du mal. Vous ne vous rendez même pas compte que, il dit, où est la crainte qu'on a de moi? Ils n'ont pas de crainte. Ils faisaient des affaires complètement flaillies. Puis en plus, ils ne se rendaient même pas compte qu'ils faisaient des choses complètement pécheresses. Deux Chroniques, chapitre 20, versets 26 à 30. Puis, au quatrième jour, ils s'assemblèrent dans la vallée de bénédiction, parce qu'ils bénirent là l'Éternel. C'est pourquoi on a appelé ce lieu-là la vallée de bénédiction jusqu'à ce jour. Et tous les hommes de Juda et de Jérusalem, et Josaphat marchant le premier, tournèrent visage pour revenir à Jérusalem avec joie, car l'Éternel les avait remplis de joie à cause de leurs ennemis. Et ils entrèrent à Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, avec des musettes, des violons et des trompettes. Et la frayeur de Dieu fut sur tous les royaumes de ce pays-là, quand ils eurent appris que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Ainsi, le royaume de Juda fut en repos, parce que son Dieu lui donna du repos tout alentour. Oui, Dieu, souvent, dans les Écritures, on voit ça, des fois, le Seigneur, il dit, laissez-moi ça, ça c'est ma bataille. Faites juste observer. C'est un peu ça qui se passe ici. Hein. Il dit, la frayeur de Dieu, quand qui ont vu comment Dieu intervenait pour combattre les ennemis d'Israël, la crainte de Dieu s'est établie sur toutes les régions environnantes. Quand les êtres humains voient comment Dieu est puissant, même chez les inconvertis, ça peut provoquer une certaine crainte de Dieu. Peut-être pas la crainte qui serait censée être la bonne, là, mais au moins une certaine crainte de Dieu. Alors, une application. Ne remettons pas à plus tard le besoin de nous examiner nous-mêmes. Implorons le Seigneur de nous sonder et de nous donner la grâce du vouloir et du faire pour le réaliser honnêtement et en profondeur. La crainte de Dieu, dans tous ces aspects-là, on a vu 12, là. Quand on entend ça, souvent, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Le danger, c'est ça quand on écoute la parole de Dieu. C'est qu'on soit des auditeurs oublieux. C'est ça que la parole nous reproche dans le livre de Jacques. De ne pas être un auditeur oublieux, c'est de procéder à l'examen de nous-mêmes que la Bible nous commande de faire, sur toutes ces différentes facettes-là. Et la meilleure façon de le faire, comme j'ai dit tantôt, si on s'examine nous-mêmes, on est très indulgent envers nous-mêmes des fois. « Oh, je suis pas trop pire là-dessus, moi. » Mais demandez au Seigneur de lui, avec son œil, son regard de flamme, comme ça dit dans les Écritures, de vous examiner, vous allez voir que lui, il voit pas mal plus en profondeur que nous. Et il va vous en montrer des déficiences dans votre vie, dans tous les domaines de vos vies où vous avez une déficience de la crainte de Dieu. Il faut la demander au Seigneur. Ça, c'est le genre de prière que le Seigneur écoute parce qu'on est certain que quand on demande ça, on est dans sa volonté. Et quand on demande ça, il va nous répondre et il va nous montrer des aspects dans nos vies, dans un aspect ou dans un autre, où la crainte de Dieu est déficiente. Et on peut lui demander par la même occasion, quand il nous la montrera, là, qu'il nous donne la grâce de corriger cette, et de nous donner la crainte de Dieu dans le domaine qu'il va nous montrer. Puis des fois, ça peut être dans les 12 domaines. C'est ça. Alors, on va terminer par la lecture de Jérémie, chapitre 5, versets 23 à 29. « Mais ce peuple-là a un cœur rétif et rebelle. Ils se sont reculés en arrière et se sont en allés. Et ils n'ont point dit en leur cœur, « Craignons maintenant l'Éternel, notre Dieu, qui nous donne la pluie de la première et de la dernière saison, et qui nous garde les semaines ordonnées pour la moisson. Vos iniquités ont détourné ces choses, et vos péchés ont empêché qu'il ne vous arrivât du bien. Car il s'est trouvé dans mon peuple des méchants qui sont aux aguets, comme celui qui tend des pièges. Ils posent une machine de perdition pour y prendre les hommes. Comme la cage est remplie d'oiseaux, ainsi leurs maisons sont remplies de fraudes, et par ce moyen, ils se sont agrandis et enrichis. Ils se sont engraissés et parés, même ils ont surpassé les actions des méchants, et ils ne font point justice à personne, non pas même à l'orphelin, et ils prospèrent et ne font pas droit aux pauvres. Ne punirai-je point ces choses-là, dit l'Éternel, et mon âme ne se vengera-t-elle pas d'une nation qui est telle? » Il est en train de leur dire qu'Israël, sur certains aspects de leur vie, il était pire que les nations qui les environnaient. Hey, c'est pas un compliment quand Dieu dit ça, là. Il est en train de dire au peuple de Dieu qu'il était pire que les nations qui les environnaient. Alors qu'il leur dit, surprenez-vous pas s'il n'y a pas de bénédiction, puis surprenez-vous pas non plus si je ne punirai pas ces choses. Alors, si ça marchait dans le temps de l'Ancien Testament, ça marche encore aujourd'hui. Alors, que notre grand, glorieux et merveilleux Seigneur soit béni, loué et adoré éternellement. Amen.